Kaboul a subi hier des attentats revendiqués par Daesh. Le nombre de victimes est déjà très lourd. Les talibans ont, eux, de leur côté, condamné ces attaques. Mais peut-on leur faire confiance pour lutter contre Daesh et le terrorisme islamiste? C'est la question que l'on vous pose ce matin. On attend toujours vos réactions sur notre standard 0826 300 300, sur notre compte Twitter ou les réseaux sociaux. Et pour en parler, notre premier invité, Gérald Olivier, journaliste franco-américain, chercheur associé à l'IPSE, l'Institut de prospective et de sécurité en Europe. Bonjour Gérard Olivier.
Bonjour Gérald Olivier.
Gérald.
Oui, pardon, Gérald, effectivement. Gérald. Bah oui, c'est la fin de l'été pour Marilyn, elle a beaucoup travaillé, donc elle est fatiguée un petit peu pour être honnête. Moi aussi.
C'est la
DR. On va essayer de faire attention, en tout cas, c'est vrai.
Pardonnez-moi.
C'est important, d'autant que le sujet est très sérieux, Gérald Olivier. Première question, comment les Américains ont réagi à l'annonce de ce bilan très lourd? On le rappelle, 13 militaires tués ainsi que 18 autres blessés. Est-ce que l'Amérique est en deuil actuellement ou l'heure des polémiques a-t-elle déjà sonné, débuté?
Non, l'Amérique est en deuil, elle est aussi en colère. Elle a inévitablement très mal réagi parce que c'est un petit peu le scénario du pire qui est en train de se dérouler. C'est-à-dire que les Américains sont d'accord à une assez large majorité pour un retrait d'Afghanistan. Ce qui pose problème, c'est la manière dont ce retrait est exécuté par l'administration Biden. Et jusqu'à présent, l'administration pouvait se prévaloir du fait que les choses s'étaient passées dans la confusion, mais il n'y avait pas eu de mort. Et il n'y avait pas eu de mort côté américain. Et depuis hier, c'est terminé, c'est faux. Et ce qui choque considérablement les Américains dans cette affaire, c'est le fait que la sécurité de leurs ressortissants en Afghanistan a été confiée et dépend des talibans. Pour répondre à votre question, est-ce qu'on peut leur faire confiance? L'administration Biden a choisi de leur faire confiance dans le cadre de cette évacuation et les résultats sont manifestement dramatiques. Les Américains détestent se sentir impuissants et ils ont vraiment l'impression que leur gouvernement et leur armée sur place est impuissante. Et vous avez donc la première armée du monde qui est réduite à rien ou à néant par quelques bandes de combattants talibans. Et ça choque considérablement les Américains. Et ce qui les choque, et ce qui les a choqués encore hier soir, c'est que leur président, Joe Biden, ne paraît pas l'homme de la situation. Il paraît pas à la hauteur. Il manque de poigne, il manque d'assurance, il manque
de fermeté. Il avait l'air très fatigué d'ailleurs hier soir quand il a pris la parole.
Il a l'air extrêmement fatigué. Il a une élocution qui est très difficile.
Ouais,
dans son allocution d'hier soir, il a encore fait allusion au décès de son fils. Vous savez qu'il a un fils qui est décédé d'une tumeur au cerveau.
C'était peut-être un peu malvenu en plus avant de parler de ces 13 militaires. Alors c'était 12 militaires tués avant quand il a pris la parole.
Absolument. Et on a surtout l'impression de quelqu'un qui radote et qui n'arrive pas à sortir de sa propre bulle, qui n'arrive pas à être. Il est non seulement président, il est aussi le commandant en chef. Et c'est pas du tout un discours de commandant en chef que les Américains ont entendu hier soir.
D'autant que les talibans ont pointé du doigt directement la responsabilité des militaires américains, quoi. En gros, ils ont dit finalement c'était ces attentats, ils ont lieu sur des zones qui étaient normalement protégées par les Marines. Donc en plus, il faut subir aussi ces accusations d'une certaine façon.
Absolument, et ça irrite encore plus les Américains, d'autant que ce qui se passe là, le gros problème de cette évacuation, c'est que elle était conçue dans un contexte où le gouvernement précédent, le gouvernement de M. Ashraf Ghani, serait toujours en place. Et à partir du moment où les forces, on va dire légitimes ou légales, celles qui ont été formées par les Américains, les fameux 300 000 soldats de l'armée afghane, à partir du moment où eux contrôlent la situation, l'évacuation pouvait se dérouler dans un certain ordre et on pouvait faire retirer les militaires, etc., etc. Le problème, c'est que ce gouvernement s'est effondré en quelques jours. Au contraire de tout ce que les spécialistes américains avaient annoncé, y compris le président, pas plus tard que le mois dernier. Déjà, ce scénario-là a choqué pas mal d'Américains en disant « Est-ce que nos gouvernants savent véritablement ce qui se passe sur place ? Est-ce que ce n'a fait pas des années qu'on nous trompe sur la réalité de la situation ?» Et plus ils découvrent les choses, plus ils sont terrifiés ou horrifiés par la façon dont les choses se passent en Afghanistan.
Gérald Olivier, deux choses importantes à noter dans le discours hier soir de Joe Biden. Ils traqueront les auteurs de ces attentats, mais dans le même temps, la date butoir du départ des troupes américaines est maintenue au 31 août. C'est mardi, c'est pratiquement demain. Est-ce que ce n'est pas là deux affirmations finalement contradictoires ?
Alors en fait, ce sont deux éléments qui ne sont pas sur le même agenda. Mmh. C'est-à-dire que je suis malgré tout convaincu que les Américains iront chercher les auteurs de ces attentats. Maintenant, c'est beaucoup plus difficile à faire quand vous n'avez personne sur le terrain, parce que ces gens vont se fondre dans la population. Par contre, malheureusement, du fait de leurs propres affirmations, l'administration Biden est tenue à ce deadline, à cette date limite du 31 août. Ils y sont tenus vis-à-vis de leurs engagements auprès des talibans, et aller au-delà de cette date les exposerait à des affrontements non plus avec des groupes terroristes que les talibans prétendent combattre, mais directement avec les talibans. Et aujourd'hui, les Américains ne sont plus du tout en position de force sur place. Ce qui veut dire que si l'évacuation doit se prolonger au-delà du 31 août, il va falloir que les Américains dépêchent de nouvelles troupes sur place. Mmh. Or, ils ne contrôlent rien, sauf cet aéroport international qui, manifestement, est pris d'assaut tous les jours par un certain nombre de gens qui veulent évacuer.
C'est la faillite du politique, des renseignements ?
C'est les deux, ou l'état de mon capitaine, c'est tout à la fois. Ouais. Vous avez un échec du leadership, comme on dit en anglais, de la part du président. Mmh. Vous avez un échec du renseignement militaire. Vous avez un échec de l'exécution par le Pentagone. Donc, il y a plusieurs responsabilités. Vous avez peut-être derrière un échec du département d'État dans la façon dont les négociations ont été conduites avec les talibans. Je rappelle que, comme le dit toujours Joe Biden, les négociations ont été lancées par l'administration Trump. Ça, c'est parfaitement vrai. Ouais. Mais en arrivant à la Maison-Blanche en janvier, Joe Biden aurait très bien pu suspendre ces négociations, infirmer cet accord comme il l'a fait vis-à-vis de l'accord de l'Iran, comme il l'a fait vis-à-vis de l'accord de Paris sur le climat, comme il l'a fait sur un certain nombre de politiques vis-à-vis de l'immigration, comme il l'a fait sur l'énergie. Il a inversé un certain nombre de décisions prises par l'administration Trump, mais en ce qui concerne l'Afghanistan, il a adopté cette stratégie du retrait et il en a fait la sienne. Et dans ses discours au printemps, il parlait même à la première personne en disant « j'ai pris la décision de mettre un terme à notre engagement en Afghanistan ». Donc ce retrait, il l'a pris à son compte et manifestement, il a été très mal géré par l'ensemble de son administration.
Deux dernières questions, Gérald Olivier. Tout d'abord, certains commencent à faire le parallèle avec l'attaque de Benghazi qui avait coûté la vie en 2012, on s'en souvient, l'ambassadeur américain en Libye. Ça a fortement nuit au mandat de Barack Obama. Est-ce que cette attaque risque d'avoir aussi des conséquences politiques très lourdes pour Joe Biden, selon vous ?
Ah oui, c'est un tournant majeur. C'est un tournant majeur, même pour Biden vis-à-vis de l'électorat démocrate. C'est-à-dire quand les républicains dénoncent la réalisation de ce qu'ils avaient toujours annoncé. Ils avaient dit « Biden n'est pas un homme capable de gérer ça et vous verrez ce qui se passera lorsqu'il sera président ». Les démocrates disaient autre chose. Mais aujourd'hui, au sein du camp démocrate, la crainte, c'est que dans les élections intermédiaires qui vont intervenir dans un petit peu plus d'un an, eh bien, ils soient balayés à cause des erreurs et de la confusion du président. L'un des personnages qui a été le plus critique du président Biden dans cette affaire, c'est un sénateur qui s'appelle le sénateur Menendez, qui est le président de la Commission des Affaires étrangères du Sénat, et c'est un démocrate. Et il a critiqué la manière dont cette évacuation a été conduite et les rebondissements, enfin, dire les conséquences politiques, elles vont se faire sentir à long terme et elles sont indéniables pour Biden et les démocrates.
Mmh. Les Américains sont allés en Afghanistan après les attentats du 11 novembre, l'attentat du 11 novembre 2001 pour mettre en place la démocratie, pour casser le terrorisme, pour casser Al-Qaïda. On se retrouve là 20 ans après avec la démocratie qui a disparu, les talibans qui sont au pouvoir, et puis Daesh qui est présent déjà. Ça a servi à quoi ces 20 ans ?
Ah, ça, c'est la question à 60 000 $, comme on dit aux États-Unis. Oui, il est tragique de constater aujourd'hui l'échec de ces investissements, de toutes les vies qui ont été sacrifiées, des milliards de dollars qui ont été investis en Afghanistan alors qu'ils auraient pu être investis ailleurs. Et on a surtout l'impression d'un pays qui refuse d'apprendre ses leçons. Et je pense que ça, on va le découvrir dans les mois à venir, parce que les Américains sont très très forts pour mettre en place des commissions parlementaires et revenir en arrière pour réécrire l'histoire et savoir ce qui s'est passé. Donc l'ensemble des mensonges que l'état-major militaire et qu'un certain nombre de diplomates ont mis en avant au cours de toutes ces années, tout cela va être révélé dans les mois à venir. Mais il est évident que on a eu 20 ans de guerre et 10 jours d'effondrement. Donc le rapport entre les deux choque tout le monde, même ceux qui ne s'intéressaient pas à l'Afghanistan avant, même ceux qui étaient favorables à cette politique de... C'est une politique de reconstruction. Les Américains parlent de nation building. À la vérité, ils ont fait la guerre pendant 3 mois, de septembre à décembre 2001, et de décembre ou de janvier 2002 à aujourd'hui, ils ont essayé de construire un État fiable. Et le problème, c'est qu'ils ont totalement échoué, alors que pendant toutes ces années, ils ont prétendu être en bonne voie et ont demandé plus de crédit, plus de soutien, plus de troupes, etc. etc. C'est cet enchaînement-là qui choque et qui va choquer encore plus, parce que c'est ce processus-là maintenant qui va être mis à jour par les institutions américaines et qui aura également des répercussions.
Gérald Olivier, un grand merci d'avoir accepté notre invitation ce matin sur Sud Radio. Je rappelle que vous êtes journaliste franco-américain, chercheur associé à l'Institut de prospective et de sécurité en Europe. Merci à vous et bonne journée. Allez, 9h19, merci. 9h19 dans Grand Matinée de Sud Radio. On poursuit ce débat. On a vu le séisme aux États-Unis. On va voir maintenant les conséquences que ça peut avoir, Marilyn, du côté de la France. Chez nous, tout simplement. On voit ça dans un instant avec Claude Moniquet, ancien agent de la DGSE. À tout de suite sur Sud Radio.
Sud Radio, le grand matin, été 7h-10h. Benjamin Glaise, Marilyn Hérault.
Bienvenue sur Sud Radio, il est 9h23 et on continue de débattre autour de la question du jour suite aux attentats hier à Kaboul. Peut-on faire confiance aux talibans pour lutter contre Daesh et le terrorisme islamiste? Pour en parler, notre nouvel invité, Claude Moniquet, spécialiste du renseignement, ancien agent de la DGSE. Bonjour Claude Moniquet.
Bonjour.
Bonjour à vous et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. On a un peu de retard, désolé Claude Moniquet, mais c'est important en tout cas d'être avec vous pour voir un petit peu les conséquences que ça peut avoir aussi en France, parce que forcément on parle d'un événement qui se déroule à quelques milliers de kilomètres de chez nous, mais forcément ça peut avoir aussi un impact quand on parle de terrorisme, de djihadisme. Forcément ça nous touche tout particulièrement ici chez nous. Quand on parle, alors la question, on va la rappeler, peut-on faire confiance aux talibans pour lutter contre Daesh et le terrorisme islamiste? Je vous pose la question tout simplement à vous, Claude Moniquet. Pour vous, est-ce qu'on peut leur faire confiance? On le sait, les talibans ont condamné ces attentats, en tout cas officiellement c'est ce qu'ils disent. Joe Biden lui affirme qu'ils n'ont rien à voir avec ces explosions, que pour lui il n'y a pas de lien avéré entre les talibans et Daesh. Quel est votre avis sur ce sujet?
En fait, il faut distinguer deux choses. Les talibans en tant que mouvement, qu'organisation, sont clairement opposés à Daesh. Et c'est d'ailleurs réciproque, ils se traitent mutuellement d'impies, d'apostats, de mauvais musulmans, etc. Mais maintenant, la société afghane est une société extrêmement complexe, dans laquelle le clanisme l'emporte souvent sur les fidélités politiques. Donc on peut tout à fait avoir une organisation talibane qui s'oppose effectivement à Daesh, et puis à la base ou à des stades intermédiaires, des commandants talibans, des combattants, qui eux, pour des raisons claniques, des raisons familiales, des raisons tribales, ou simplement parce qu'ils ont déçu par la relative mollesse des talibans à leurs yeux, qui vont, eux, passer du côté de Daesh ou favoriser les activités de Daesh. Donc c'est une réponse à laquelle on ne peut pas répondre, une question à laquelle on ne peut pas répondre de manière simple. Mais globalement, ce que je dirais, c'est qu'en Afghanistan, il faut rester relativement prudent, voire même méfiant.
À l'inverse, finalement, de ce qu'on peut voir sur les grandes puissances, sur les États-Unis, sur Joe Biden, en tout cas, sur ce qu'il nous annonce, sur ce qu'il nous dit, et puis ce qu'on peut voir aussi en France, globalement, j'ai l'impression, quand on entend Jean-Yves Le Drian, qu'on peut traiter avec ces talibans.
Oui, mais je mettrai le cas des États-Unis un peu à part. Ouais. Sans tomber dans le simplisme, il y a toujours une certaine naïveté américaine face au monde. Rappelez-vous qu'avant le 11 septembre 2001, puisqu'on arrive au 20e anniversaire, les Américains ne juraient sur le Moyen-Orient que par leurs amis saoudiens, jusqu'au moment où ils se sont rendus compte que sur les 19 pirates de l'air, il y avait 17 saoudiens. Là, ça leur a posé un petit problème quand même, ça a entraîné une remise en cause. On a la même chose en Afghanistan. Effectivement, le patron de la CIA était à Kaboul, discuter avec les talibans. Biden nous a dit que tout se passerait bien. Ouais. Et on voit que sur le terrain, c'est le contraire. Mais c'est une faiblesse à laquelle on est habitué. Du côté français, je pense qu'on est plutôt, comme ailleurs en Europe, sur une position plus politique qui vise à ne pas insulter l'avenir. Les talibans sont là pour un moment. Nous avons des intérêts dans la région, y compris si on veut protéger les populations. Donc, il faut essayer de garder un canal de dialogue ouvert avec eux.
Parmi les intérêts, justement, essayer d'empêcher cette menace terroriste de menacer directement, en l'occurrence, la France. La France qui va continuer à évacuer, au moins jusqu'à ce soir. Concernant les réfugiés, il y a une actualité qui a beaucoup choqué, notamment, on le voit sur les messages qu'on reçoit sur les réseaux sociaux. Sur cet Afghan, on en avait parlé la dernière fois qu'on vous avait reçu, Claude Moniquet, cet Afghan suspecté d'être en lien avec les talibans, qui a rompu son assignation finalement à résidence. 10 mois de prison avec sursis. Si, ça paraît pas beaucoup. Est-ce que c'est de nature à nous inquiéter ou pas ?
Mais ce qui est de nature à nous inquiéter, c'est que même si clairement la majorité des gens qui ont été exfiltrés d'Afghanistan, des Afghans exfiltrés d'Afghanistan, sont des gens qui nous ont aidés, donc des gens qui sont plutôt qui appartiennent aux élites, entre autres parce qu'ils parlent des langues étrangères, qu'ils parlent le français, ce qui est quand même pas courant en Afghanistan, ça c'est plutôt de nature à inspirer confiance. Maintenant, très clairement, on a plusieurs problèmes. On peut avoir des infiltrés. On peut avoir des gens qui vont être mis sous pression par des extrémistes parce que leur famille est restée en Afghanistan et qu'on peut les menacer de faire du mal à leur famille. Ouais. On va avoir des gens qui seront certainement déçus de la France et peut-être du mode de vie français. Donc oui, on peut avoir, et surtout si cette vague d'exfiltration relativement limitée, puisqu'on parle de 2000 personnes à peu près, est suivie d'une vague d'immigration plus massive, là on peut avoir de sérieuses inquiétudes sur la possibilité de voir se constituer des réseaux en Europe. On a eu, rappelons-le, on a eu quand même en France déjà plusieurs attaques terroristes qui ont été commises par des Afghans.
On poursuit le débat avec une nouvelle invitée qui nous rejoint, Marilyn.
Oui, on accueille Myriam Benrad, politologue spécialiste du monde arabe, professeure associée en relations internationales à l'ILERI, l'Institut libre d'études des relations internationales. Bonjour et bienvenue, Myriam.
Bonjour.
Bonjour à vous et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Alors, on a parlé il y a quelques minutes avec le journaliste Gérald Olivier, de ce bilan assez lourd pour côté américain, avec ses 13 militaires tués, ses blessés. Il ne faut pas oublier néanmoins le bilan afghan et il est très lourd, hein, Myriam Benrad.
Oui, les Afghans sont les premières victimes de ce conflit. Hein. Aujourd'hui, on parle des attentats qui viennent de survenir à Kaboul, de frapper notamment les abords de l'aéroport et on l'a vu, une dizaine de soldats américains. Mais en réalité, les premières victimes de la violence en Afghanistan et notamment de la violence djihadiste, qu'elle soit revendiquée d'ailleurs par l'État islamique ou par les talibans, ce sont les civils afghans qui n'ont aujourd'hui plus aucune option. La communauté internationale se retire. Les talibans ont pris le pouvoir. On voit bien qu'on est déjà en train d'entrer dans un cycle de guerre civile parce que ces attentats de l'État islamique, ce ne sont pas seulement des attentats contre les États-Unis pour marquer en quelque sorte l'humiliation finale des Américains. Ouais. Ce sont aussi des attentats qui montrent qu'on est déjà entré dans un cycle de guerre civile en Afghanistan.
Certains commentateurs évoquent le retour du terrorisme islamiste en Afghanistan. Il avait réellement disparu, ce terrorisme, depuis quelques années ? Où il était toujours là ?
Non, ça fait des années que l'Afghanistan est rongé par la violence djihadiste. Comme je viens de le mentionner, bon, tout d'abord, les talibans eux-mêmes sont un mouvement djihadiste. Alors un mouvement djihadiste à couleur, on va dire, islamo-nationaliste, puisqu'ils prétendent vouloir le contrôle de l'Afghanistan et pas plus, et puis apaiser leurs relations avec le monde extérieur. Mais les talibans, rappelons-le, ont des liens étroits avec Al-Qaïda, qui, pour sa part, poursuit une logique de djihad global depuis les attentats du 11 septembre. Et puis on a enfin l'État islamique qui s'est implanté, notamment parmi les plus jeunes, avec un discours encore plus radical, et qui lui, comme je l'ai dit, est dans une logique de guerre civile parce qu'il cible certaines communautés en particulier, notamment les communautés chiites, Hazara d'Afghanistan, qui ont fait les frais d'attaques extrêmement meurtrières. On a aussi toute la dimension, bien sûr, misogyne de la violence djihadiste qui, on le voit, frappe au premier plan les femmes. Et encore une fois, quelles sont les options aujourd'hui qu'on a vraiment alors que tout le monde évacue le pays ?
Quelques chiffres, plus de 200 attaques depuis le début de l'année de la part de l'État islamique en Afghanistan, donc c'est important de le dire et de dire qu'ils n'apparaissent pas là comme ça du jour au lendemain. Et selon un rapport de l'ONU publié en juillet dernier, on parle de 500 à quelques milliers de combattants de Daesh dans le pays. Myriam Benrad, vous restez avec nous, Claude Moniquet aussi, on revient dans un instant avec un auditeur qui sera avec nous, qui nous a appelé au 0826 300 300, on poursuit et on conclut ce débat bien sûr. À tout de suite sur Sud Radio.
Sud Radio, le grand matin était 7h10. Benjamin Glaise, Marie-Line Hérault.
9h33 dans le Grand Matin, été de Sud Radio. C'est la dernière partie de notre grand débat avec cette question. Je vous la rappelle sur nos réseaux sociaux Twitter, Facebook, 0826-300-300. Peut-on faire confiance aux talibans pour lutter contre Daesh et le terrorisme islamiste? Et on a un auditeur qui nous appelle, Marie-Line.
Oui, on a Hervé D'Antoni qui voulait réagir sur ce sujet. Bonjour et bienvenue Hervé.
Bonjour Hervé.
Bonjour.
Bonjour. Oui, oui, moi je pense que les Américains, comme les Occidentaux d'ailleurs, ont mené une guerre armée, mais ils n'ont pas mené une guerre idéologique. Ce qui fait que ce qui se passe en Afghanistan, en fait, c'est l'islam. Daesh, c'est l'islam. L'Arabie Saoudite, c'est l'islam. Et quand ils sont quelque part, ils s'imposent parce que la religion islamique, qui n'est pas qu'une religion, qui est aussi un système juridico-politique, il impose ses normes juridiques quand il prend le pouvoir et quand ils sont assez nombreux. Je vous signale quand même, je dis ça pour les journalistes français au cas où il faudrait aller à Ivry-sur-Seine, qu'il y avait des petits maghrébins l'autre jour qui criaient « Vive les talibans !» Donc on a quand même du souci à se faire, et que quand on dit que l'islam est une religion de paix et d'amour, c'est ce qu'on appelle de la propagande, comme les nazis savaient très bien le faire, parce que l'islam c'est une religion guerrière.
Après vous avez des états musulmans qui pratiquent pas la charia quand même, bon, Hervé.
Ah oui, alors d'accord, je vais vous répondre, je vais vous donner une vraie réponse.
Ah oui, allez-y, ouais, bien sûr.
Je vais vous donner une vraie réponse, parce que comme ça, vous pourrez vérifier. En août 1990, il y a eu une déclaration des droits de l'homme des pays islamiques, et quand vous regardez, c'est signé par 54 pays arabes, enfin, pays musulmans, excusez-moi, et arabo-musulmans, et quand vous regardez, en fait, c'est la charia. Donc, en fait, la conception, pour eux, si vous voulez, il n'y a pas de droits de l'homme, il y a d'abord les droits de Dieu et d'Allah. Et donc, tant qu'on n'a pas compris que qu'était l'islam, tant qu'on fait semblant de confondre le christianisme et l'islam, le christianisme n'a rien à voir avec l'islam. Donc, moi, j'entendais votre universitaire Miam qui parle de géostratégie, bon, très bien, elle emploie le terme de djihadiste. Je dis pour les auditeurs que le djihad, c'est la guerre sainte, c'est théorisé dans les textes saints, les textes sacrés, notamment du Coran, et donc, ceux qui font le djihad sont des musulmans qui appliquent ce que demande le Coran.
On va faire réagir nos invités, Hervé. Merci de nous avoir appelé en tout cas au 0826-300-300. Tout d'abord, Myriam Benrad, je rappelle que vous êtes politologue, spécialiste du monde arabe, professeur associé en relations internationales à l'Institut libre d'études des relations internationales. Alors, plusieurs choses hein, dans ce que disait Hervé, mais l'idée pour sa part que, en gros, en fait, c'est l'islam égale islamiste. Donc ça, c'est une chose. Surtout, sur le point intéressant, je pense, ce qui relevait, c'est sur cette question de guerre idéologique. Je pense que sur la question de l'islam et de l'islamisme, on peut être d'accord pour faire la différence. C'est peut-être important de le rappeler déjà, Myriam Benrad. Et ensuite, sur cette notion de guerre idéologique à mener peut-être face aux talibans, à Daesh.
Bah, écoutez, l'islam, comme toutes les religions, peut être interprété comme on le souhaite, hein, comme les croyants le souhaitent. Donc on a une interprétation belliqueuse, guerrière du côté des djihadistes, qui n'est absolument pas l'interprétation que des musulmans mystiques vont faire des prescriptions, enfin de ce qu'ils vont trouver dans le Coran. D'ailleurs, disons les choses, dans le Coran, on trouve tout et son contraire. Donc les djihadistes, rappelons-le, font une lecture très sélective du Coran. D'ailleurs, une lecture qui est quand même essentiellement décontextualisée, puisqu'ils vont prendre des versets ici et là d'un contexte pour y voir l'appel au meurtre contre les mécréants, pour y voir l'appel au meurtre contre leurs coreligionnaires musulmans en les qualifiant d'apostats. Bon, ils font une lecture à la fois littéraliste mais sélective. Donc, je n'irai pas...
Et rappelons aussi, on peut parler aussi à Hervé...
J'aimerais finir, s'il vous plaît.
Ah, oui, oui.
J'aimerais finir, s'il vous plaît, monsieur, parce que vous lui avez laissé du temps pour dire pas mal
d'années. Non, mais c'est justement... Alors, attendez, Alors, juste une chose, c'était justement pour aller dans votre sens. On peut rappeler la question des croisades aussi du côté catholique, du côté chrétien. Voilà.
Oui,
je vous laisse finir, bien sûr.
C'est de la même manière, si vous voulez, oui, parce que je trouve que quand même le propos de cette personne est un peu un propos dangereux, d'autant que c'est un propos finalement qui réplique ce que les djihadistes disent eux-mêmes. Donc, et surtout, rappelons que les premières victimes des djihadistes sont les musulmans eux-mêmes.
Oui.
Donc il faut vraiment faire attention de ne pas faire d'assignation identitaire. Mais les croisades, c'est exactement la même chose. D'ailleurs, c'est ce que j'ai dit dans un de mes ouvrages. Je me suis intéressée à la question des croisades. Les djihadistes sont, excusez-moi, des demeurés ignorer, qui n'ont jamais compris l'histoire des croisades. Et ça, n'importe quel historien va vous le dire. Donc il faut quand même lire un minimum sur les croisades pour voir que ce que disent les djihadistes, ça n'est pas l'islam. Et surtout, au-delà de ça, l'idéologie djihadiste est une idéologie contemporaine, moderne, qui s'inscrit dans la modernité. On le voit aussi avec leur projet politique, qui est un projet en fait de construction d'un État moderne, bureaucratique finalement. Ça n'a rien à voir avec le califat historique dont ils se réclament. Pour revenir à la question de la guerre sainte, et je finis très rapidement là-dessus, bien sûr, pour monopoliser la parole, mais la guerre sainte, c'est pareil. Le djihad, à l'origine, dans les textes sacrés, à aucun moment le terme djihad dans le Coran ne fait en fait explicitement référence à une guerre armée. La guerre, meurtre, on va dire la conquête armée par la violence, c'est qital en arabe, ce n'est pas djihad. Donc il faut arrêter de encore une fois aussi, d'essentialiser ce terme, qui veut dire plutôt d'ailleurs dans l'islam, conçu comme éthique collective, l'effort sur soi pour être meilleur, pour être une meilleure personne, un meilleur croyant. Donc c'est vous dire à quel point les djihadistes ont subverti cette religion pour en faire un outil de violence et de domination.
Oui, Claude Moniquet. Alors, on va conclure rapidement, effectivement, parce qu'on déborde un petit peu. Claude Moniquet, déjà, en quelques mots, ancien agent de la DGSE, je le rappelle, sur cette question de Hervé, on parlait de guerre idéologique. Est-ce qu'on appréhende d'une certaine façon aussi, du côté de l'armée, la question de l'idéologie ou pas quand on intervient comme ça sur ce type de territoire?
D'abord, je voudrais dire que je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire Myriam Benrad. Il n'y a aucun doute pour moi sur cet aspect des choses. Ouais. Les armées essaient d'appréhender les phénomènes culturels des terrains d'opération sur lesquels elles interviennent, et les services d'enseignement également, surtout peut-être les services d'enseignement. Et ça nous permet quand même d'appuyer sur un point précis. Je comprends très bien qu'il y a des gens aujourd'hui qui refusent l'islam en France, etc. On le voit. C'est un mouvement qui existe, qui est déplorable, mais qui existe. Cela étant, très clairement, la guerre contre l'extrémisme, la guerre contre le djihad, on ne la remportera que par une alliance avec les éléments modérés, les éléments sains, qui sont majoritaires dans le monde musulman. En dehors de cela, il n'y a pas de possibilité de remporter cette guerre, en tout cas les aspects idéologiques de cette guerre. Donc il faut être très clair là-dessus. Et effectivement, tous les discours qu'on entend sur les musulmans sont tous les mêmes et tous des djihadistes, c'est exactement ce que veulent les gens de Daesh. Fondamentalement, ce qu'ils veulent, c'est pas vaincre militairement l'Occident, ils savent bien qu'ils n'y arriveront pas, c'est semer chez nous la discorde et semer chez nous des ferments de division qui feront qu'ils arriveront à une espèce de guerre civile où les musulmans en France et en Europe se sentiront rejetés et seront attirés vers le djihadisme.
Et vous avez raison.
Le discours qu'on vient d'entendre, c'est un très grand danger parce que ça va dans le sens voulu par les extrémistes.
Vous avez raison d'insister sur ce point. Quand on parle de division, on voit où on en est aussi aujourd'hui en France, malheureusement. Un grand merci, Claude Moniquet, spécialiste du renseignement, ancien agent de la DGSE, d'avoir accepté de débattre avec nous ce matin sur Sud Radio. Et merci beaucoup, Myriam Benrad, d'avoir été avec nous. Je rappelle, politologue, spécialiste du monde arabe, professeur associé en relations internationales à l'Institut libre d'études des relations internationales. C'est vrai que c'est important aussi d'entrer dans les nuances. C'est pour ça qu'on prend le temps aussi sur Sud Radio de pouvoir développer toutes ces questions qui sont pour le coup très compliquées. On l'avoue. Voilà. On conclut en tout cas ce débat avec le résultat de nos votes. On rappelle la question qu'on posait Marilyn ce matin à nos éditeurs sur Twitter, Facebook et au 0826-300-300. Peut-on faire confiance aux talibans pour lutter contre Daesh et le terrorisme islamiste? Ça
le
dit quoi?
Le résultat non à 92% avec la réaction de Mirif qui dit autant confiance en eux qu'envers les Occidentaux qui vont installer la démocratie.
Oui, c'est une autre question pourra poser. En tout cas, merci à nos débatteurs, merci l'ensemble de nos débatteurs. Merci aussi à vous tous d'avoir participé à ce débat. Sur Sud Radio, 9h42 tout de suite, on passe en cuisine. Ouais, déjà en cuisine. Ouais, il est tôt, mais on est parti. Allez sur Sud Radio.